Un journal présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. L'État sommet d'agir sous peine d'astreinte en faveur de la qualité de l'air dans plusieurs villes et régions françaises. La décision du Conseil d'État qui vient d'être annoncée est une grande victoire pour les associations écologistes. Explication à suivre de Florence Turm.
Les manifestations continuent partout en France contre les nominations au gouvernement de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti. Plusieurs associations féministes considèrent ces nominations à l'intérieur et à la justice comme des affronts.
L'ancienne basilique Sainte-Sophie à Istanbul ne sera bientôt plus un musée, mais une mosquée. Recep Tayyip Erdogan est parvenu, après des années de pression, à faire reconnaître l'édifice inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme un lieu de culte musulman. Correspondance à suivre dans ce journal d'Anne Andlauer. Une décision extrêmement importante en matière de protection de l'environnement en France, notamment en lien avec les questions sur la santé. L'État vient de se voir ordonner par le Conseil d'État l'obligation de prendre des mesures immédiates pour réduire la pollution de l'air dans plusieurs villes et régions. Une obligation relative à une précédente décision administrative à appliquer désormais sous peine d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. Explications et détails avec Florence Turm.
Le Conseil d'État insiste sur ce point, il s'agit du montant le plus élevé jamais imposé pour contraindre l'État à exécuter une décision prise par le juge administratif. Cette première décision date de juillet 2017. Les sages avaient alors enjoint le gouvernement d'élaborer et de mettre en œuvre des plans afin de ramener les concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines en dessous des valeurs limites imposées par les normes européennes. Cela concernait 13 zones différentes que les associations de défense de l'environnement ont suivies à la loupe. Le constat est clair, partagé à la fois par les associations et le Conseil d'État, les mesures demandées restent absentes ou insuffisantes dans 8 des 13 zones concernées, Grenoble, Lyon, Marseille-Aix, Reims, Strasbourg, Toulouse, Fort-de-France et Paris. Constat sévère, le Conseil d'État relève que les feuilles de route élaborées ne comporte ni estimation de l'amélioration de la qualité de l'air, ni précision sur les délais de réalisation de ces objectifs. Les juges se montrent plus compréhensifs, en revanche, vis-à-vis du plan mis en œuvre pour la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Même si les valeurs limites y sont dépassées, il comporte des mesures précises et crédibles pour les réduire dans les proportions nécessaires d'ici 2022. 10 millions d'euros par semestre, cela représente 54 000 euros par jour, et il faut le souligner, si l'État ne prenait pas les mesures nécessaires dans le délai imparti, cette somme pourrait être versée aux associations requérantes, mais aussi à des organismes privés ou publics qui mènent des actions autonomes et d'intérêt général dans ce domaine.
Côté associations et ONG environnementales requérantes, justement, les Amis de la Terre, Notre Affaire à Tous ou encore l'association Respire, dont le directeur s'appelle Olivier Blond, s'estime enfin entendu. Olivier Blond répond à Véronique Roberotte.
Nous, on est ravis par cette décision. Parce que c'est un message très très clair au gouvernement qui lui dit en substance, ça suffit les tergiversations, maintenant il faut agir, il faut lutter contre la pollution de l'air. Et ça fait des années qu'on attend des actions, ça fait des années qu'on alerte sur les dangers liés à la pollution de l'air, 50 à 70 000 morts par an quand même en France, c'est énorme. Et il y a des petites mesurettes qui sont prises de ci, de là, mais rien de suffisant. Et là, on espère que cette décision du Conseil d'État, ça va être un message qui sera entendu, enfin, par le gouvernement, et que ça va initier une série de mesures fortes. J'espère que Madame Pompili, qui vient d'arriver à la tête du ministère, va inaugurer finalement son poste avec toute une série d'actions et de décisions très fortes, parce que c'est ce dont on a besoin. L'enjeu de cette décision, c'est de lutter contre le diesel en ville, parce que les véhicules diesel dans les grandes métropoles sont les principales sources de dioxyde d'azote, ce gaz pour lequel il y a donc un gros problème. Par rapport à ces véhicules diesel, il y a plein de choses à faire. Il faut encourager les particuliers à changer de véhicule, mais il ne faut pas que ce soit à eux de payer, il faut qu'il y ait des subventions. Il faut encourager aussi les taxis, les VTC à changer de véhicule. Il faut aider les artisans à avoir des petites camionnettes qui ne polluent pas. Il faut changer les bus, évidemment. Il n'y a plus qu'à prendre son courage à deux mains, et j'espère que c'est ce que fera Madame la Ministre.
Les protestations continuent contre la composition du nouveau gouvernement et notamment contre l'arrivée de Gérald Darmanin sous le coup d'une plainte pour viol et d'Éric Dupond-Moretti, sorti jugé misogyne, arrivé respectivement au ministère de l'Intérieur et de la Justice. Bonsoir Olivier Vogel.
Bonsoir.
De nombreuses associations féministes ont organisé aujourd'hui encore des manifestations un peu partout en France.
Il y a moins d'un an, les militantes féministes étaient restées sur leur faim avec le résultat du Grenelle contre les violences conjugales, mais la nomination des nouveaux ministres de l'Intérieur et de la Justice leur a fait l'effet d'une gifle. Le premier flic de France visé par une plainte pour viol et le garde des Sceaux qui trouvait ahurissant qu'on puisse être poursuivi en sifflant une femme dans la rue, ça commence à faire beaucoup pour Fatima Benomar, cofondatrice des Effrontés.
C'est un signal absolument désastreux, c'est un énorme dédain. Je pense qu'ils pensaient vraiment que le mouvement féministe allait se contenter d'une com éphémère qui a suivi toute l'actualité autour du Grenelle contre les violences faites aux femmes l'année dernière, que là on est passé à autre chose, que c'était fini. Nous ne pensions pas être déçus après déjà les peu de moyens qui ont été débloqués après le Grenelle pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Ben, il arrive encore à nous décevoir et à nous indigner.
Une colère qui s'exprime en ce moment même dans la rue, à Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville et dans une trentaine d'autres villes de France, de Brest à Strasbourg en passant par Ajaccio ou Laval. Et l'indignation s'étend même au-delà de nos frontières. Caroline Dehaas est la fondatrice du collectif Nous Toutes.
Il y avait une mobilisation dans plusieurs capitales européennes et même dans plusieurs capitales du monde, des Françaises et des Français expatriés qui ont organisé des mobilisations en disant « mais c'est la honte internationale ce qui se passe ». La dernière fois qu'on avait été appelé par autant de médias internationaux, c'était au moment de la tribune de Catherine Deneuve sur la liberté, je mets des guillemets, d'importuner. Et là, les médias nous rappellent en disant « mais qu'est-ce qui vous arrive en France ? Ça paraît lunaire ».
Des rassemblements sont ainsi prévus à Berlin, Londres, Bruxelles, Barcelone, Tel Aviv et même Sydney.
Merci Olivier Vogel. Les tarifs réglementés de l'électricité pourraient prochainement augmenter. C'est en tout cas ce que préconise la Commission de régulation de l'énergie qui propose une hausse de 1,55% TTC des tarifs de l'électricité à compter du 1er août. Une grosse arnaque au chômage partiel a été découverte en France. L'extension du recours au chômage partiel pendant le confinement a visiblement suscité des convoitises. Le parquet de Paris annonce enquêter sur des escroqueries massives impliquant des flux financiers internationaux. Des flux qui auraient coûté au moins 1,7 million d'euros de préjudice aux finances publiques. Explication de Marie Viennot.
La fraude sur laquelle va enquêter le parquet de Paris n'a rien à voir avec les arrangements qu'ont pu prendre des employeurs pendant le confinement en mettant au chômage partiel des salariés qui continuaient de travailler. Il s'agit là d'une fraude organisée vraisemblablement depuis l'étranger et à grande échelle. Selon les premières investigations, cela fonctionnait ainsi. Des demandes de versement d'indemnité pour le chômage partiel étaient faites par télédéclaration en usurpant la raison sociale et le numéro d'identification d'entreprise existante qui, elle, n'avait pas demandé à bénéficier d'aide. Pour le moment, on sait que 160 entreprises d'Occitanie ont été victimes de cette usurpation, les victimes étant en fait les comptes publics qui auraient déjà déboursé indûment 1 700 000 euros. Dans son communiqué, le parquet de Paris affirme que 6 millions d'euros de versements supplémentaires ont pu être stoppés grâce aux premiers éléments de l'enquête. Toujours selon le parquet, plus de 1740 opérations frauduleuses ont été identifiées sur 13 des 16 directions régionales des entreprises. Elles émanaient de plus de 1000 sociétés et fléchaient les versements vers plus de 170 compte bancaire. Les investigations s'annoncent d'une très grande complexité, prévient le parquet de Paris. Il va lui falloir démêler de nombreuses transactions financières illicites, ce qui nécessitera une forte coopération internationale et permettra de tester à quel point les appels à la transparence de ces dernières années auront permis de faciliter le travail des enquêteurs.
Marie Viennot. Force ouvrière va signer le projet d'accord pour la revalorisation des métiers paramédicaux et non médicaux trouvés dans le cadre du Ségur de la Santé. La CFDT avait déjà annoncé accepter ces accords. Le texte prévoit une revalorisation de 180 euros net pour tous les salariés concernés. Et puis près de 4 ans après la mort d'Adama Traoré suite à son interpellation par des gendarmes en 2016 à Beaumont-sur-Oise, les juges d'instruction chargés du dossier ont ordonné aujourd'hui de nouvelles investigations et notamment une nouvelle expertise médicale confiée à 4 médecins belges.
Recep Tayyip Erdogan, le président turc, doit s'exprimer dans la soirée. Il va commenter pour s'en féliciter la réouverture de Sainte-Sophie à la pratique du culte musulman.
L'ex-basilique Emmanuel, qui était un musée depuis 1934, va redevenir, suite à la décision du plus haut tribunal administratif en Turquie, une mosquée, comme elle l'a déjà été suite à la prise de Constantinople, je ne vous apprends rien, par les Ottomans au XVe siècle. Erdogan n'a pas perdu de temps depuis cette décision du tribunal pour signer dans la foulée le décret qui confie la destinée de Sainte-Sophie à la direction des affaires religieuses de Turquie. À Istanbul, Anand Lower.
Dans les motifs de sa décision, le Conseil d'État turc fait valoir que Sainte-Sophie est, depuis la conquête ottomane, la propriété de la fondation Fatih Sultan Mehmet Han, du nom du sultan qui a conquis Istanbul, et que les statuts de la fondation en garantissent l'usage comme mosquée. En clair, que le décret de 1934 qui l'a transformé en musée, décret pourtant signé de la main du fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, était donc illégal. Cette décision n'est pas une surprise. La presse pro-gouvernementale avait dévoilé il y a plusieurs jours l'issue des délibérations. En revanche, le Conseil d'État renie sa jurisprudence puisqu'à trois reprises, en 2008, 2012 et 2015, diverses formations du Conseil avaient rejeté des demandes similaires. Mais il faut le dire, à l'époque, le président Erdogan refusait de revenir sur le statut de Sainte-Sophie. À cause de l'érosion de son électorat et des tensions avec l'Occident, il a changé d'avis ces dernières années et la justice l'a donc suivi. Le calendrier désormais devrait être assez rapide. À peine la décision du Conseil d'État connue, le président Erdogan a publié sur son compte Twitter le décret en vertu duquel il transfère la gestion de Sainte-Sophie à la Dianette, la présidence des affaires religieuses, une institution chargée de gérer les mosquées du pays et leur personnel. Ce décret a aussitôt été publié au journal officiel, levant par là le dernier obstacle juridique à la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée.
Anne Handlower à Istanbul, et puis vous retrouverez sur notre site internet franceculture.fr un dossier complet sur ce sujet, sur cette décision turque et sur ses enjeux. Le gouvernement néerlandais annonce aujourd'hui vouloir traduire en justice la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme pour son rôle dans la destruction du vol MH17. Le vol avait été abattu par un missile en 2014 au-dessus de l'Ukraine.
À Hong Kong, où la crise du Covid-19 a été bien contrôlée jusqu'à présent, avec un nombre total de 1400 cas et 7 morts depuis fin janvier, l'inquiétude revient concernant cette épidémie.
Avec 32 nouveaux cas recensés aujourd'hui, après une quarantaine recensée hier, le gouvernement vient d'annoncer la fermeture anticipée des écoles pour les vacances d'été parmi ces nouvelles mesures mises en place pour tenter de contenir ce qui est considéré dans la région administrative spéciale de la Chine comme la troisième vague de Covid-19. Les détails avec notre correspondante sur place à Hong Kong, Florence de Changy.
Jardins d'enfants, écoles primaires, collèges et lycées sont en vacances dès aujourd'hui à Hong Kong, soit 10 jours plus tôt que prévu, et la date de la rentrée est également en suspens. Il reviendra aux écoles de décider de maintenir ou non les examens prévus la semaine prochaine, certains étant déterminants pour l'entrée en secondaire. Les élèves étaient déjà en période de rattrapage, ayant perdu 4 mois de scolarité cette année. Les épreuves de l'équivalent du bac ont-elles déjà pu avoir lieu? Cette mesure est prise à titre préventif pour répondre notamment à l'inquiétude des parents, car il n'y a pas eu, à ce jour, un seul cas de transmission à l'école. L'énorme salon du livre qui doit ouvrir la semaine prochaine et qui accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs tous les jours est pour le moment maintenu, car selon la ministre de la Santé, la plupart des contaminations ont lieu lors d'activités non masquées, notamment en famille ou dans les restaurants et dans les taxis, où il est désormais conseillé d'ouvrir les fenêtres après que plusieurs chauffeurs ont été testés positifs.
Florence de Changy. En France, le ministre de la Culture vient de publier, le ministère de la Culture vient de publier les résultats, c'est une ministre maintenant. Le ministère de la Culture donc vient de publier les résultats d'une grande enquête au long cours sur les pratiques culturelles des Français réalisée tous les 10 ans depuis 1973. Cette enquête montre notamment que jamais les Français n'ont autant consommé de culture, et même s'il existe des clivages dans cette enquête, cette consommation effrénée est une réalité, Benoît Grossin.
Quel que soit leur âge, leur milieu social ou le lieu où ils habitent, jamais les Français n'ont autant consommé de culture et de la musique, notamment écoutée par 80% des personnes interrogées en 2018 contre 66% en 1973. Les jeunes en particulier, à une très grande majorité, s'en abreuvent désormais tous les jours ou presque. L'essor, la démocratisation de cette pratique a évidemment été favorisée par le numérique, qui contribue également à une spectaculaire progression du jeu vidéo. Et chez les jeunes encore, la consommation quotidienne de vidéos en ligne est devenue la pratique culturelle principale pour 59% des 15-24 ans, 22% ne voulant même plus entendre parler de télévision ni de radio. Il n'est question pour eux que de réseaux sociaux, de plateformes de streaming gratuites comme YouTube ou payantes comme Netflix. Et puisque l'étude date de 2018, tout porte à croire que depuis le confinement, un pas important de plus a été franchi dans l'explosion de cette culture numérique, ce qui pourrait renforcer la fracture qui n'a jamais été aussi forte avec la culture dite traditionnelle, dont le public vieillit, habite dans les villes et appartient à des milieux aisés ou diplômés. Les jeunes lisent beaucoup moins, leurs aînés assistent à davantage de spectacles vivants, alors que dans les années 70, les 15-24 ans, ayant assisté à une pièce de théâtre ou à un concert dans l'année, étaient en moyenne trois fois plus nombreux que les seniors. D'où une forte interrogation sur l'avenir de la culture classique, sachant que le secteur affronte en ce moment une crise économique sans précédent.
Benoît Grossin. Grand soleil demain sur toute la France après le départ des derniers nuages encore présents dans la matinée sur l'est et le nord-est. Température maximale au meilleur de l'après-midi jusqu'à 30 degrés.